Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Marianne durant la case.
Le premier prix national Claude Lévi-Strauss a été remis solennellement à Dan Sperber, des mains de Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'Académie des sciences morales et politiques dans la grande salle des séances de l'Institut de France le 28 juin 2009. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de la remise de ce prix doté de 100 000 euros, créé par la ministre Valérie Pécresse, pour valoriser l'excellence de la recherche française en sciences humaines et sociales à l'occasion du centenaire de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Vous entendrez donc au cours de cette retransmission l'ouverture de la séance par Jean-Claude Casanova, président de l'Académie pour 2009, puis la présentation du prix Claude Lévi-Strauss par le président du jury Raymond Boudon, puis la laudatio par Paolo Legrenzi, membre du jury, puis l'allocution finale de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse, et enfin les remerciements du lauréat, Dan Sperber. Retrouvons Jean-Claude Casanova en grande salle des séances.
Monsieur le chancelier, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, mes chers confrères, mesdames, messieurs. Lorsque nous avons pris connaissance à l'Académie des sciences morales et politiques de votre décision, madame la ministre, de fonder un prix national de sciences humaines et de le placer sous l'égide de notre illustre confrère Claude Lévi-Strauss, nous avons à l'Académie même, et j'en suis sûr dans de larges secteurs de la communauté des sciences humaines, accueilli cette nouvelle avec gratitude. En premier lieu, en raison des effets de stimulation et d'émulation scientifique que, selon toute vraisemblance, ce prix devrait entraîner. Mais aussi parce que la création de ce prix témoigne de l'importance que, à travers la décision de son ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le gouvernement, le Premier ministre et le Président de la République attachent aux sciences humaines, à leur développement, à la préservation de leur qualité et à l'affirmation de la présence de la France dans ce domaine essentiel de la connaissance. Il serait en effet regrettable que notre pays ne conserve pas le rang que lui ont acquis depuis longtemps dans ces disciplines les grands noms de Montesquieu, de Tocqueville, de Cournot, de Durkheim, de Valras et autres géants français des sciences humaines du passé. En même temps, je ne cacherai pas que, lorsque l'on m'a fait l'honneur de me proposer de présider le jury de ce nouveau prix, j'ai été pris d'une certaine appréhension. Il en a été de même, si j'en crois certaines confidences, de plusieurs membres du jury. Allions-nous en effet, dans les délais très brefs qui nous étaient impartis, réussir à répandre de façon suffisamment large la nouvelle de la création du prix dans la communauté scientifique française ? Nous serait-il possible de résoudre les problèmes pratiques soulevés par la dispersion dans l'espace des membres d'un jury international ? Surtout, allions-nous parvenir à une décision qui serait considérée comme légitime par la communauté scientifique, par-delà tous les clivages entre les disciplines et entre les approches théoriques qui la caractérisent. En fait, grâce à l'appui des autorités de l'Académie et à l'efficacité de son secrétaire général qui a su mobiliser avec virtuosité les ressources offertes par Internet, le jury a pu, sans trop de difficultés, maîtriser les problèmes soulevés par la diffusion de la bonne nouvelle et contourner les obstacles de l'éloignement, du décalage horaire et des incompatibilités entre les agendas des membres du jury. Quant à nos inquiétudes concernant le fond, elles ont été, elles aussi, rapidement dissipées. Le règlement du prix prévoyait qu'un dossier pouvait être pris en considération par le jury, qu'il émanât soit du candidat lui-même, soit de l'initiative d'un ou plusieurs tiers, ou encore qu'il combina actes de candidature et recommandations par un ou plusieurs tiers. Or, en dépit du bref délai qui a séparé l'ouverture de la clôture des candidatures, nous avons eu la bonne surprise de recueillir une soixantaine de candidatures, dont un nombre appréciable provenant de chercheurs de haut niveau. professeur des universités, membre de l'Institut universitaire de France, professeur au Collège de France, directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il s'agissait ensuite pour le jury de constituer à partir des candidatures recueillies une liste courte au sein de laquelle serait choisi le lauréat. Le jury s'est accordé à cette étape sur une liste d'une dizaine de noms. Conformément aux dispositions définissant le prix, des rapports concernant chacun des candidats de la liste courte ont alors été commandés à des personnalités extérieures au jury. Ils sont venus compléter l'information contenue dans les dossiers de candidature et les lettres de recommandation. C'est à partir de cet ensemble de données qu'au cours d'une seconde session, le jury a déterminé le nom du lauréat. Qu'il me soit permis ici, au nom du jury dans son ensemble, de remercier les rapporteurs extérieurs pour leur précieuse collaboration. Quelques observations méritent peut-être d'être tirées de la première édition de ce prix national de sciences humaines. Tout d'abord, nous avons été frappés par la qualité d'un très grand nombre de dossiers. Très peu nous ont paru inspirés par la volonté de séduire plutôt que d'instruire. Surtout, très peu de ces dossiers nous ont semblé animés par les préoccupations extra-scientifiques qui, dans les dernières décennies du siècle dernier, avaient affecté plusieurs domaines des sciences humaines, ceux, par exemple, traitant de l'éducation, de la délinquance ou encore de la réflexion sur la science. Certes, on perçoit encore chez certains des candidats formés dans cette période des traces de l'idéologie qui invitait le chercheur en sciences humaines à s'écarter des règles usuelles de la pensée scientifique, justifiant ainsi la confusion entre essayisme et apport au savoir, et en fin de compte, entre opinion et connaissance. Comme l'a révélé un rapport récent de notre Académie, fondé sur les avis d'éminents experts étrangers, l'influence que cette idéologie a exercée hier au niveau de l'enseignement supérieur se reflète encore aujourd'hui dans les manuels français de sciences économiques et sociales à l'usage du secondaire. La plupart des dossiers dont nous avons été saisis échappent, heureusement, à ces objections. Ils nous ont paru témoigner, au contraire, d'une incontestable éthique scientifique. Clarté dans l'expression, rigueur de l'argumentation, volonté d'adopter une démarche démonstrative, collecte méthodique et respect des données factuelles et, symptômes significatifs, emploi du mot « théorie » au sens où il est utilisé par toutes les sciences et non au sens où il était volontiers utilisé hier, de vision subjective de l'être humain et de la société. La grande majorité des dossiers nous ont, en résumé, donné l'impression d'être guidés par l'objectif d'apporter une contribution réelle à la connaissance, un signe à l'évidence encourageant pour l'avenir. Nous avons pu constater aussi que, si plusieurs candidats faisaient l'objet, sans aucun doute possible, d'une reconnaissance nationale et internationale, des représentants importants des sciences humaines françaises ne s'étaient pas portés candidats et n'avaient pas non plus été proposés par des tiers. Pour les raisons les plus diverses, mais dans certains cas sans doute, parce que les uns et les autres n'ont pas clairement perçu que le prix concerne les sciences humaines dans leur ensemble, et que tout chercheur peut prétendre à être couronné, quel que soit son ancrage disciplinaire et son orientation méthodologique et théorique. Ce qui était en effet exigé avant tout du lauréat, au terme du règlement définissant le prix, c'est qu'il ait produit une œuvre novatrice, présentant un caractère méthodologique prononcé, ouvrant de nouvelles perspectives ou proposant des modes de pensée originaux, susceptible de contribuer au progrès de la connaissance. Il était requis de surcroît du lauréat que ses travaux illustrent la complémentarité des sciences humaines en s'inscrivant à des degrés variables dans des disciplines connexes. Car l'histoire des sciences humaines démontre abondamment que bien des œuvres majeures sont nées d'une inspiration tirée de plusieurs disciplines. et complémentairement que la prétention de revendiquer l'autarcie d'une discipline et a fortiori la prépondérance d'une discipline sur les autres a toujours abouti à une impasse. L'économisme a contribué à l'isolement de l'économie dans la famille des sciences humaines. Le sociologisme a donné naissance à des épisodes de stérilisation de la sociologie. Dans ses formes intégristes, l'anthropologie a servi de caution à un relativisme radical. Ce critère de la pluridisciplinarité a conduit le jury à écarter certaines candidatures de valeurs incontestables et reconnues, mais s'inscrivant dans un cadre strictement unidisciplinaire. Le règlement du prix exigeait aussi que le dossier comportât des signes incontestables de notoriété internationale. C'est pourquoi nous avons attaché de l'importance aux invitations dans des universités étrangères renommées, bien sûr, et surtout aux distinctions scientifiques internationales, comme l'élection dans telle ou telle académie étrangère prestigieuse. Or, plusieurs de la soixantaine de dossiers témoignaient d'une reconnaissance nationale, mais ne comportaient pas, ou pas encore, de signes irrécusables de notoriété internationale. Nous avons aussi noté, cum grano salis, que la notoriété internationale peut ne pas impliquer automatiquement la notoriété nationale. Ce paradoxe, sur lequel il serait instructif de se pencher, était illustré dans nos dossiers par le cas d'un chercheur jeune, auteur d'une œuvre novatrice, peu connue en France même, mais qui a été élu à l'Academia Europaea, un signe de reconnaissance qui ne distingue qu'une petite poignée de chercheurs français de sa discipline. Pour conclure ces brèves observations, je voudrais à nouveau, Madame le Ministre, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, souligner la bonne surprise qu'a été pour les membres du jury l'attachement à l'éthos scientifique dont nous ont semblé faire preuve le plus grand nombre des candidats. Quant aux lauréats de cette première édition du prix Claude Lévi-Strauss, ou comme on dira peut-être bientôt du prix CLS, ce qui serait le signe d'une inscription durable du prix dans le paysage scientifique français des sciences humaines, l'anthropologue, philosophe, psychologue, sociologue Dan Sperber, il nous a semblé illustrer cet attachement à l'éthos scientifique de façon exemplaire, tant par ses travaux relevant de l'anthropologie que par ses travaux relatifs aux phénomènes cognitifs. Il est l'auteur de théories suffisamment bien articulées et étayées pour que, si l'on est bien sûr en droit de les contester, l'on puisse aussi les soumettre à une discussion méthodique. Qu'il me permette de lui adresser les chaleureuses félicitations du jury. Mais c'est à notre collègue en charge de sa laudatio, le professeur Paolo Legrenzi, qu'il appartient d'en dire davantage sur lui.
Dan Sperber, fils de l'écrivain juif autrichien Manès Sperber, est né en 1942 à Cagnes-sur-Mer, donc en zone sud, où la famille était réfugiée pour fuir les persécutions nazies. Après des études de sociologie à Paris, en particulier sous la direction de Georges Balandier, il étudie l'anthropologie à l'Université d'Oxford, sous la direction de Rodney Needham. À son retour à Paris en 1965, il entre au CNRS à l'âge de 23 ans et y poursuit toute sa carrière jusqu'à son éméritat en 2008. Il y relève tour à tour des commissions chargées de la sociologie, de la philosophie, puis des sciences du langage. Il fait de fréquents séjours comme chercheur ou professeur invité dans des universités étrangères, notamment à l'Université de Cambridge, à l'Institut d'Advanced Studies à Princeton, au département de philosophie de Princeton, au département de psychologie, de philosophie et de droit de l'Université du Michigan à Ann Arbor, au département de l'Université de l'University College à Londres et au département d'anthropologie de la London School of Economics, où il est toujours professeur invité. Dan Sperber est un chercheur qui a une réputation internationale dans au moins quatre disciplines. l'anthropologie, la philosophie, la linguistique et la psychologie cognitive. Outre 4 livres, abondamment traduits, il a publié de très nombreux articles, fréquemment cités dans les grandes revues scientifiques internationales de ces différents domaines. Sa carrière scientifique commence en anthropologie. Après des recherches de terrain chez les Dorsets d'Éthiopie méridionale, il s'appuie sur cette expérience pour entreprendre un travail plus théorique. La nouvelle théorie du symbolisme développée par Sperber dans ses ouvrages « Le symbolisme en général, le savoir des anthropologues » est une véritable révolution dans l'anthropologie de l'époque où l'opposition à ce qu'on appelle le réductionnisme psychologique fait figure de dogme. Sperber, lui, recherche les fondements de l'activité symbolique culturelle non plus seulement dans des relations sociales ou dans des formes structurales abstraites, mais avant tout dans les mécanismes psychologiques eux-mêmes. Plus qu'une intention, une conviction soutient tous ses travaux, à savoir qu'il est possible de concilier les sciences de la nature et les sciences de l'homme en s'appliquant à l'étude conjointe du mental et du culturel. Ce parti pris scientifique s'est avéré fécond, puisqu'il a conduit Dan Sperber à développer des théories originales dans les domaines de la cognition et de la communication. Quelles sont les bases de la communication humaine? Selon une vision traditionnelle, les êtres humains utilisent le langage pour encoder leurs pensées. La réponse donnée par Dan Sperber, en collaboration avec la linguiste britannique Deirdre Wilson, est différente. L'information que l'on communique n'est que très partiellement codée, et les mécanismes que la communication active sont des mécanismes d'inférence et de raisonnement, autant et plus que des codages et décodages. En utilisant cette perspective cognitive, connue comme théorie de la pertinence, Dan Sperber et David Wilson ont produit une importante contribution théorique ainsi qu'empirique à l'étude de la pensée humaine et du langage, et notamment des mécanismes d'interprétation et de signification. Cette contribution a inspiré des recherches novatrices dans de nombreux domaines: psychologie du raisonnement, linguistique, philosophie du langage, théorie littéraire. Les résultats de ces travaux sur les bases cognitives de la communication humaine ont aussi permis à Dan Sperber de développer une importante ligne de recherche sur la diffusion collective des représentations mentales, l'épidémiologie culturelle. Une population humaine, un groupe social pris dans son environnement, est habité par une population beaucoup plus nombreuse des représentations mentales et publiques. Chaque membre du groupe a dans son cerveau des millions de représentations mentales, certaines éphémères, d'autres conservées dans les mémoires à long terme. Certains sont communiqués aux autres. Parmi les représentations communiquées, certains les sont d'une façon répétée et peuvent même finir par être distribués dans le groupe entier. Si certaines idées se répandent au point de devenir partagées socialement, c'est en particulier parce qu'elles s'ancrent dans les capacités cognitives et communicatives humaines. Les processus psychologiques et communicationnels jouent un rôle de filtre et de contrainte dans la stabilisation des représentations à l'intérieur des individus et du groupe social. Cette approche a permis à Sperber d'articuler les microprocessus individuels et interindividuels et les macroprocessus sociaux, sans ignorer la complexité et la spécificité des uns et des autres. Cette articulation d'une conception naturaliste de la cognition et de la communication humaine, avec la volonté de préserver et d'enrichir l'héritage des sciences humaines et sociales, qui ouvre sur une intégration féconde et non réductionniste, sinon de ces disciplines elles-mêmes, du moins du grand programme de recherche qui en relève. Dan Sperber a apporté une contribution majeure dans toutes les disciplines dans lesquelles il a travaillé. Leur effet combiné nous permet de conclure qu'il s'agit d'une des plus éminents chercheurs du monde des sciences sociales et cognitives, dont l'œuvre ambitieuse anticipe les enjeux majeurs de ces disciplines. Merci.
Messieurs les secrétaires perpétuels, Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, cher Raymond Boudon, que je cherche des yeux, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, chers lauréats, comment prévoir les résultats des élections? Mieux enseigner les mathématiques, aider les enfants dyslexiques, se remettre d'un traumatisme psychique, mieux faire fonctionner le capitalisme, combattre le capitalisme, faire reculer l'alcoolisme, améliorer la vie dans les cités. Pour des raisons institutionnelles autant qu'intellectuelles, les sciences humaines regroupent un ensemble disparate de programmes de recherche aux ambitions très diverses. Certains répondent à des demandes pratiques, d'autres, en histoire ou en ethnographie par exemple, ne répondent pas à une demande d'aide, en tout cas pas directement, mais à une exigence d'interprétation, à un désir de mieux se comprendre soi-même et de mieux comprendre les autres. Voilà, cher Dan Sperber, votre définition des sciences humaines. Je me permets de vous citer parce qu'il me semble que vous exprimez là parfaitement toute la force humaine, sociale, culturelle, politique que donne à chaque civilisation sa capacité à se regarder, à se penser et à s'imaginer. Vous, l'explorateur de la pensée humaine, naviguant entre psychologie cognitive, philosophie, anthropologie, linguistique, ça a été parfaitement dit. Vous vous êtes fixé ce cap, mieux se comprendre et mieux comprendre les autres. La terre promise à tous les chercheurs d'humanité. Je ne rappellerai pas l'importance de vos travaux. Vos pères l'ont fait avant moi, et le professeur Paolo Legrenzi vient de rappeler quelle voie décisive vous avez ouverte dans le champ encore si largement en friche des sciences cognitives. Votre entreprise d'élucidation de la pensée vous conduit à questionner, à contester parfois, l'ordre scientifique établi. Vous flirtez, si vous me permettez l'expression, avec les sciences de la nature. Vous revendiquez d'ancrer la pensée dans la matière. Vous placez résolument votre travail aux confins d'un horizon à conquérir par-delà les disciplines. Bref, vous êtes un iconoclaste. Mais est-ce que ce n'est pas le propre des bons chercheurs, des grands chercheurs? Vous connaissez sans doute ce mot de Winnicott qui disait « Pour faire de la recherche, il faut avoir des idées, il y a une orientation subjective dans l'investigation. » Eh bien, ce sont ces idées qui sont vos idées, cher Dan Sperber, et qui vous valent la reconnaissance de vos pairs aujourd'hui. Et je veux saluer, mais est-ce nécessaire, la qualité et la disponibilité des membres du jury qui vous ont désigné. Parmi une soixantaine de candidats plus remarquables les uns que les autres, et dont beaucoup sont là, auprès de vous, pour saluer votre travail. Sous les auspices bienveillants de l'Académie des sciences morales et politiques, le président du jury, le professeur Raymond Boudon, a relevé le défi d'un calendrier très contraint, et je l'en remercie. Il fallait toute son autorité morale et scientifique pour mener à bien la première édition de ce concours, dont le bon déroulement engageait la communauté scientifique tout entière. Car aujourd'hui, nous honorons une œuvre scientifique et son auteur, mais au fond, ce que le gouvernement souhaite, c'est que l'ensemble des sciences humaines et sociales soient fêtées. C'est d'ailleurs ainsi que j'ai présenté la création de ce prix à Claude Lévi-Strauss, lorsqu'il y a presque 10 mois, je lui ai fait part de mon souhait de créer un prix qui porte son nom. Et je tiens à dire à Laurent Lévi-Strauss, qui est parmi nous aujourd'hui, à quel point j'ai été sensible au fait que votre père accepte que nous décernions un prix qui porte son nom. Et j'espère, cher professeur, que jamais on ne l'appellera le CLS et que toujours ça restera le Lévi-Strauss. En cet instant, je pense à lui, à l'immense homme de science qu'il est, bien sûr, mais aussi à sa générosité et à la simplicité avec laquelle il a accueilli cette idée de créer un prix national en l'honneur des humanités et des sciences sociales. Mesdames et messieurs, je suis déterminée à ce que nos sciences humaines et sociales françaises, dont la qualité est reconnue partout dans le monde, et voix au chapitre dans la recherche française. L'excellence n'est pas le privilège des physiciens, des médecins ou des mathématiciens. L'excellence est dans l'œuvre des historiens, des sociologues, des linguistes ou des psychologues qui font avancer la connaissance de l'homme. Et c'est pourquoi j'ai souhaité que ce nom de Lévi-Strauss, ce nom emblématique, ce nom mondialement connu, symbolise désormais la reconnaissance du travail des hommes et des femmes qui poursuivent son œuvre ici, dans notre pays. La France est riche d'un patrimoine exceptionnel, intellectuel et scientifique. Cette richesse doit rester vivante, s'animer aux sources de l'échange et du débat qui aujourd'hui est international. Et c'est le sens de ce prix Claude Lévi-Strauss, dont la qualité des lauréats fera la réputation. Et c'est le sens de mon souhait de voir aussi naître à Paris, dans le nord de Paris, mais j'en vois quelques futurs acteurs, un grand campus de sciences humaines et sociales qui rassemble les meilleures équipes de la recherche du pays. Ce campus Condorcet sera demain le cœur de l'excellence française dans le domaine des humanités et des sciences sociales. Les projets scientifiques les plus innovants et les plus ambitieux s'y déploieront et dans des conditions dignes d'accueillir les meilleurs chercheurs et étudiants du monde entier. Nous avons une ambition pour les sciences humaines et les sciences sociales de notre pays. Une ambition simple, qu'elle retrouve la légitimité et la dignité sociale qu'un monde consumériste et technologique tend parfois à leur contester. Il en va, j'allais dire, de notre rayonnement, mais j'irai même plus loin, je dirais, de notre santé morale, culturelle et démocratique. Il en va de notre capacité collective à assumer le cheminement qui conduit l'humanité vers les horizons toujours repoussés de la connaissance scientifique. Les héritiers de Lévi-Strauss, de Braudel, de Le Goff, de Sperber maintenant, doivent pouvoir trouver dans notre pays les conditions du rayonnement de leur pensée. Ils doivent pouvoir être fiers de leur engagement et trouver auprès d'eux des étudiants confiants dans leur avenir. Et c'est un vrai défi que nous devrons relever. Nous ne pouvons pas nous exonérer d'une réflexion de fond sur la place des humanités et des sciences sociales dans notre pays. La crise qui a traversé le monde universitaire ces derniers mois a frappé durement, une fois encore, les filières de sciences humaines et sociales, plus fragiles, semble-t-il, et plus inquiètes que les autres. Mais j'allais dire, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe de voir cette inquiétude qui semble proportionnelle à la qualité aussi de ces humanités et de ces sciences sociales françaises. Nous devons lutter contre cette absence de confiance. Nous devons combattre ces inquiétudes en bâtissant avec la communauté universitaire un projet national pour les humanités et les sciences sociales. Et c'est pourquoi je souhaite installer auprès de moi un conseil pour le développement des humanités et des sciences sociales. Un tel conseil a existé par le passé et il est important que ce conseil soit composé de personnalités scientifiques éminentes qu'éclairera l'avis de quelques représentants de la société dite civile et qu'il ait pour mission de définir les principes d'une véritable stratégie scientifique et pédagogique pour les sciences humaines et sociales au XXIe siècle. Tous les pays développés fondent leur développement économique, social et culturel sur une pensée réflexive sur leur intelligence du monde contemporain. Partout dans le monde, des diplômés de sciences humaines et sociales sont recrutés pour leur connaissance des langues, leur esprit critique, leur capacité à comprendre, à dénouer les complexités sociales, les mystères de l'âme humaine. Pour la jeunesse de notre pays, c'est le projet que je veux bâtir sur le socle de notre excellence académique. Ce prix Claude Lévi-Strauss porte l'espoir que la France sera, demain comme hier, demain encore plus qu'hier, le creuset d'une pensée vivante et fière d'elle-même. Dan Sperber, je suis très heureuse de vous remettre ce premier prix Claude Lévi-Strauss.
C'est un grand honneur et un grand plaisir aussi d'être le premier lauréat du prix Claude Lévi-Strauss. J'exprime ici ma profonde reconnaissance à vous, Madame la Ministre, qui avez créé ce prix, qui me le remettait en personne, et aux membres du jury international qui m'en ont jugé digne, et aussi à M. Raymond Boudon et à M. Paolo Legrenzi, qui ont introduit cette cérémonie. De tout cœur, merci. Le travail pour lequel vous m'honorez est, comme tout travail scientifique, une œuvre collective. Il doit beaucoup au laboratoire auquel j'appartiens, l'Institut Jean Nicot de l'École normale supérieure et de l'École des hautes études en sciences sociales, et à l'équipe de doctorants et de jeunes chercheurs dont j'ai tant appris en m'efforçant de leur apprendre quelque chose. Près de la moitié de mes écrits est issue de collaborations avec mes étudiants, avec certains de mes collègues, et avant tout avec Deirdre Wilson, professeur de linguistique à l'University College de Londres. Merci à eux tous. Au sentiment de reconnaissance que j'éprouve se mêle une émotion plus profonde. Ce prix a été créé en hommage à Claude Lévi-Strauss et il porte son nom. Or, je lui dois tant. Que l'honneur qui m'est fait contribue à l'hommage qui lui est rendu, voilà qui me comble et qui avive le souvenir de mes rencontres avec l'œuvre puis avec l'homme. Je me souviens, adolescent, d'avoir été captivé par Triste Tropique et par cette façon si distante et si pénétrante à la fois de considérer le monde. Je me souviens de la fascination intellectuelle éprouvée à la lecture d'Anthropologie structurale, recommandée par un camarade de la Sorbonne. Nos professeurs, eux, ne nous incitaient guère à lire Lévi-Strauss. Mes intérêts, cependant, étaient ailleurs. C'était l'époque de la guerre d'Algérie et de l'émergence du tiers-monde. Je voulais mieux comprendre l'histoire que nous vivions. C'est Georges Balandier, dont je salue la présence ici, anthropologue du monde en devenir, qui m'a le premier fait apprécier la richesse de l'anthropologie. Puis à Oxford, où j'ai eu la chance de poursuivre mes études, ce furent Godfrey Linhart et Rodney Needham. Lecteur avide de toutes les nouvelles publications de Lévi-Strauss, je devins à mon retour à Paris en 1965 un auditeur assidu de son séminaire où tant de jeunes anthropologues soumettaient leurs travaux aux critiques acérées mais bienveillantes du maître. Ce séminaire, nous étions nombreux à l'attendre chaque semaine, à en poursuivre la discussion dans les heures et les jours qui suivaient. En 1968, je publiais un essai critique sur le structuralisme en anthropologie. Lévi-Strauss m'invita alors à en présenter la substance lors de 3 séances de son séminaire. Je me souviens de sa patience, de ses impatiences aussi, et de ses encouragements. Claude Lévi-Strauss a attiré à l'anthropologie plusieurs générations de brillants étudiants qui, sans lui, se seraient dirigés vers la philosophie, l'histoire ou la sociologie. Ils sont devenus pour la plupart de remarquables chercheurs de terrain. Grâce à eux, l'anthropologie française est aujourd'hui au meilleur niveau mondial. Rares, cependant, parmi eux sont ceux qui, comme Maurice Godelier, Françoise Héritier ou Philippe Descola, ont consacré une part importante de leur travail à la théorie anthropologique. Il est vrai que l'œuvre théorique de Lévi-Strauss avait de quoi intimider. Pour ma part, témérité ou présomption, c'est de Lévi-Strauss, le théoricien, que j'ai voulu être l'émule. Il y a quelque 50 ans, commençait vraiment ce qu'on a pu appeler la révolution cognitive, c'est-à-dire une démarche consistant à étudier les phénomènes mentaux comme des phénomènes naturels. Démarche fondée sur les mêmes théories mathématiques qui ont permis le développement des ordinateurs. Démarche extraordinairement enrichie depuis par le progrès des neurosciences. La révolution cognitive permettait de repenser les rapports entre sciences sociales et sciences psychologiques, on parlerait bientôt de sciences cognitives, de façon nouvelle et féconde, et de développer à la jonction de ces disciplines un programme de recherche naturaliste qui reconnaisse à la fois la place du mental dans le social et celle du social dans le mental. J'y ai consacré jusqu'ici l'essentiel de ma vie de chercheur, travaillant comme anthropologue, comme psychologue, comme linguiste ou comme philosophe, avec un projet unique, ambitieux et, je l'espère, cohérent. C'est à Lévi-Strauss que je dois, pour une bonne part, ce projet et cette ambition. Certes, Lévi-Strauss est d'abord connu comme théoricien du structuralisme, mais c'est son naturalisme, sa volonté toujours réaffirmée de lier l'étude de la culture et de la société à celle de l'esprit humain et à celle de la nature qui m'a inspiré. La création du prix de Claude Lévi-Strauss ne répond pas seulement, je crois, au désir de rendre hommage au maître exceptionnel et d'honorer les chercheurs que le jury du prix aura désignés. Il a pour vocation, avez-vous déclaré, Madame la Ministre, de reconnaître et de soutenir l'excellence dans le domaine des sciences humaines et sociales. Cette volonté de reconnaissance et de soutien se manifeste non seulement par la création de ce prix, mais aussi, et de façon bien plus importante, par un ensemble de réformes de la recherche et de l'enseignement supérieur qui nous concernent tous. Ce n'est ni le moment ni le lieu pour évoquer les espérances et les inquiétudes que font naître ces réformes. Je voudrais plutôt, m'appuyant sur la lecture de Lévi-Strauss d'une part, sur mon expérience de l'autre, enrichir mes remerciements de quelques réflexions sur ce que peut être l'excellence en nos domaines et sur les façons dont on peut la reconnaître et la soutenir. Dans un texte de 1964 intitulé « Critères scientifiques dans les disciplines sociales et humaines », Lévi-Strauss tensait les pouvoirs publics de l'époque, plus promptes à témoigner de leur bienveillance à l'égard de ces disciplines qu'à leur donner les moyens d'exister. Aux chercheurs, il reprochait d'affirmer le caractère scientifique de leur discipline sans bien réfléchir aux exigences qu'une telle affirmation comporte. Il écrivait, je cite, « Il n'y a pas d'un côté les sciences exactes et naturelles, d'un autre les sciences sociales et humaines. Il y a deux approches, dont une seule est scientifique par son esprit, celle des sciences exactes et naturelles qui étudient le monde et dont les sciences humaines cherchent à s'inspirer quand elles étudient l'homme en tant qu'il est du monde. » Entendez, en tant qu'il est du monde naturel. L'autre approche, qui illustre les sciences sociales, et Lévi-Strauss désigne par là les disciplines qui abordent les problèmes contemporains et aident à les traiter, l'autre approche, donc, met sans doute en œuvre des techniques empruntées aux sciences exactes et naturelles, mais les rapports qu'elles nouent avec ces dernières sont extrinsèques et non intrinsèques. Vis-à-vis des sciences exactes et naturelles, les sciences sociales sont en position de cliente, alors que les sciences humaines aspirent à devenir des disciples. Fin de citation. Tout en dénonçant, je cite, « l'unité factice des sciences sociales et humaines », Lévi-Strauss insiste, et c'est important, sur la légitimité des unes et des autres. Or, aujourd'hui, mettre en question le caractère de science d'une discipline, c'est en contester la légitimité. Qu'ils soient ou non des scientifiques sur le modèle des sciences naturelles, les praticiens de nos disciplines sont tous des chercheurs et des savants. Ils mettent en œuvre de riches compétences pour aborder des questions particulièrement ardues. Donc, employons science dans un sens large, j'affirme le caractère de science de toutes nos disciplines. Je voudrais en outre aller au-delà de la dichotomie entre sciences sociales et sciences humaines que propose Lévi-Strauss et adopter un point de vue résolument pluraliste. Nos disciplines sont composées d'un ensemble de programmes de recherche autonomes qui répondent à des interrogations de diverses origines. Bien des recherches en économie ou en sociologie, par exemple, répondent à des demandes émanant d'institutions, de la société civile, et elles visent à guider l'action. D'autres recherches, en histoire, en littérature, par exemple, répondent à un besoin d'intelligibilité, au désir de mieux comprendre nos identités individuelles et collectives. D'autres encore, en droit ou en philosophie, par exemple, cherchent à éclairer les fondements et les conséquences des normes qui régissent nos interactions. Les demandes auxquelles ces recherches répondent sont historiquement et géographiquement situées, et c'est de cette situation qu'elles tirent leur pertinence et leur richesse. D'autres programmes sont mus moins par une demande externe que par le mouvement interne de la recherche. L'importance des questions ne s'y mesure pas à leurs conséquences sociales ou culturelles, mais à la possibilité d'y répondre d'une façon qui fasse avancer la connaissance. Certes, c'est une banalité, ces programmes sont eux aussi historiquement situés, mais leur pertinence est d'autant plus grande qu'elle est moins locale. Pour donner quelques exemples plus concrets, telle recherche en histoire de France s'adresse d'abord à un public français, telle recherche sur des problèmes sociaux actuels s'adresse d'abord aux acteurs sociaux concernés, telle recherche d'esthétique vise un lectorat sans doute international, mais dont les préoccupations ne sont pas pour autant scientifiques. Si elles sont exemplaires, ces recherches trouveront un écho dans la communauté scientifique internationale, mais telle n'est pas leur finalité première, ni le critère selon lequel il convient de les évaluer. D'autres recherches, en revanche, comme par exemple celle que je mène, s'adressent d'abord et avant tout à cette communauté scientifique internationale. Mes collègues de l'Institut Nico et moi acceptons volontiers l'utilisation d'instruments bibliométriques d'évaluation communs dans les sciences naturelles et mesurant le nombre et l'impact des publications dans les revues internationales. Ces mêmes instruments ont une pertinence bien moindre pour évaluer les recherches d'autres types qui ne sont pas moins légitimes que les nôtres. En dépit de leur diversité, ces programmes de recherche autonomes, qui ensemble constituent les sciences humaines et sociales, ont vocation à collaborer les uns avec les autres, et pour certains d'entre eux, dont ceux qui me tiennent le plus à cœur, à collaborer aussi avec des programmes de recherche dans les sciences naturelles. Programmes autonomes, frontières disciplinaires floues, critères d'évaluation variables, je conçois le casse-tête que peut représenter une politique de reconnaissance et de soutien de l'excellence dans le domaine des sciences humaines et sociales. Déjà, s'agissant de l'élément symbolique de cette politique, qu'est le prix Claude Lévi-Strauss, j'imagine que la tâche jurée n'aura pas été facile. Je ne suis pas, je le sais bien, j'ouvre les guillemets, le meilleur chercheur en sciences humaines et sociales en activité travaillant en France, fermez les guillemets, dont parlait le communiqué de presse annonçant la création du prix. Non pas que le jury se soit trompé de lauréat, enfin je l'espère, mais parce que cette expression qui évoque la compétition sportive n'a guère de sens dans les sciences en général et dans nos disciplines en particulier, où les façons d'exceller sont si diverses. Si j'ai pu mener les recherches qui me valent aujourd'hui cette distinction, c'est d'abord grâce au CNRS, où j'ai poursuivi toute ma carrière. Le CNRS m'a donné une liberté sans laquelle je n'aurais pas pu sortir aussi résolument des sentiers battus, passer d'une discipline à l'autre et prendre généralement le risque de me tromper. Cette liberté, l'institution me l'a donnée en ayant à mon égard, comme à l'égard de celui de la plupart de ses chercheurs, une attitude de négligence bienveillante. À cette bienveillance, cependant, se substituait trop souvent une attitude tatillonne, voire soupçonneuse, devant toute demande de moyens institutionnels ou matériels. Je n'aurais pas trouvé ni mauvais ni injuste qu'on attendît plus de moi et qu'on me donnât plus de moyens. Cependant, quelle chance cela a été pour tant d'entre nous d'être au CNRS et combien cela nous a incités à donner le meilleur de nous-mêmes. À bien des égards, la vie de chercheur s'est dégradée. Je pense en particulier à mes étudiants qui, après 8 ou 10 années d'études et des années de post-doc, ne sont pas moins passionnés par la recherche et sont bien plus qualifiés que je ne l'étais quand je suis entré au CNRS. Ils risquent pourtant, s'ils ne le veulent pas s'expatrier, de rester pendant des années, comme tant d'autres jeunes chercheurs, dans une dure précarité. J'ai l'espoir que nos excellents jeunes chercheurs bénéficient, comme j'en ai bénéficié, de conditions d'emploi et de travail qui leur permettent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Je voudrais, pour conclure, associer ma profonde reconnaissance pour un prix qui honore un travail largement accompli à cet espoir en l'avenir de la recherche et des chercheurs.
Vous venez d'entendre la retransmission de la remise du prix Claude Lévi-Strauss qui s'est déroulée le 29 juin 2009 à l'Académie des sciences morales et politiques. Le prix Claude Lévi-Strauss 2009 a été remis à Dan Sperber par Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Thank you.